Radio Libertaire 89.4.
La radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre. Et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste.
Et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste. C'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie, comme chaque mercredi pratiquement, de 9h30 à 10h30. Bonjour. Aujourd'hui, au sommaire de l'Entonnoir, une petite revue de presse, comme on en a l'habitude, bien souvent en tout cas. Donc un petit patchwork de choses diverses. Avec, pour commencer, l'actualité du mercredi 27 septembre, donc ça date de... c'est le 20 minutes donc de mercredi 27 septembre. Des cours d'empathie pour lutter contre le harcèlement scolaire. Alors ça, c'est ça concerne pas directement la psychiatrie, mais ce sont voilà, c'est une sorte de d'éducation à l'empathie. Et le gouvernement devrait développer ses ateliers censés apprendre aux élèves à être de meilleurs camarades. Ils ne seront pas tous amis, mais au moins bons camarades. Telle est l'ambition du gouvernement pour les élèves, même si le chemin sera long. La première ministre, Elisabeth Borne, présente ce mercredi, donc ce mercredi 27 septembre 2023, un plan de lutte contre le harcèlement scolaire. Elle devrait notamment annoncer le développement des cours d'empathie en maternelle et en primaire, un dispositif expérimenté dans une trentaine d'établissements franciliens cette année. Différents ateliers sont à disposition des enseignants. Exemple, le professeur leur présente une planche sur l'entraide, le courage, le fait de dire non. Le but étant de faire discuter pour qu'ils trouvent eux-mêmes des solutions et qu'ils regardent le monde avec les yeux de quelqu'un d'autre, raconte Margot Neuvial, coordinatrice du programme Vivre Ensemble pour la Ligue de l'Enseignement. Autre jeu proposé, des posters représentant des émotions sont affichés. Le professeur évoque une situation, par exemple, Hector prend le ballon à Maya et demande aux enfants de se mettre devant le poster représentant l'émotion de Maya. On constate que les enfants ne se placent pas devant le même poster. C'est une manière pour eux de se rendre compte que tout le monde ne réagit pas de la même manière, commente Margot Neuvial. Il est important d'intervenir dès le début de la socialisation de l'enfant afin qu'il sache gérer ses émotions et comprendre celles des autres, explique-t-elle pour Brigitte Cervoni, inspectrice de l'éducation nationale chargée d'école test. Plus tôt ils apprennent à être de bons camarades, mieux ils sauront défendre un élève embêté ou dénoncer un abus. Et les résultats sont positifs. Un élève de maternelle voyant deux camarades se disputant un vélo a appliqué une technique de gestion du conflit vue en classe, raconte Margot Neuvial. Elle indique aussi que les parents réfléchissent aussi davantage à leur rôle dans la lutte contre le harcèlement. Ils ont pris conscience du sentiment d'exclusion des élèves qui n'étaient jamais invités aux anniversaires ou des répercussions lorsqu'ils parlent mal d'une famille devant leur enfant. Reste que ces cours d'empathie ne sont pas un remède miracle. Pour qu'il y ait un vrai impact, il n'est nécessaire de faire un atelier par semaine et d'effectuer ce travail en maternelle, mais aussi en élémentaire et au collège, expose Bruno Humbeck, psychopédagogue. Les compétences psychosociales des élèves devraient être considérées comme des compétences socles. Voilà. C'est un article donc de mercredi 27 septembre et on voit qu'il y a donc des méthodes enfin de qui sont issues du milieu psychothérapeutique. Hein. On pourrait presque dire les techniques cognitivo-comportementales qui sont appliquées donc aux écoles, dans les écoles. Est-ce qu'il faut s'en méfier? Oui, peut-être, en effet, mais peut-être il faut dire aussi que on donne des leçons d'empathie aux enfants entre eux, bien, très bien, mais on entend toujours aboyer des injonctions dans les écoles, des adultes vers les enfants, certains adultes oublient assez souvent d'avoir de l'empathie pour les enfants dans les institutions scolaires. Voilà, donc on va passer à autre chose concernant un peu plus le monde. Bon, de la psychiatrie, mais aussi du validisme. Peut-être aussi, on parle de... Enfin, ou d'anti-validisme. Alors d'abord, la pétition dans change.org, il y a une pétition. Pétition pour la gratuité des transports en commun à Marseille et pour les adultes handicapés. Métropole ex-Marseille-Provence. Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône et la RTM, Régie des Transports Métropolitains. Donc, cette pétition leur est adressée. Hein, voilà. Elle a été lancée le 29 décembre 2021, mais donc est réitérée, en quelque sorte. Et voici la revendication, le revendicatif de cette pétition. Nous voulons que la métropole de Aix-Marseille-Provence attribue la gratuité des transports en commun aux bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé. Pourquoi ? Parce que le titre de transport est trop cher pour le budget de quelqu'un qui n'a que l'AAH comme source de revenus. 2 € à l'unité dans le bus, une carte mensuelle représente environ 5% du budget mensuel pour une allocation de 900 € par mois. Parce que les bénéficiaires de l'AAH ont de grands besoins de déplacement pour se rendre au rendez-vous dans le cadre de leur suivi médical et social, pour la réalisation d'activités très importantes pour rompre l'isolement, pour le maintien de leur santé, de leur autonomie et de leur insertion dans la société. Parce que le recours au transport en commun est indispensable pour tous ces déplacements, la ville est très étendue, de nombreux quartiers sont sous-équipés et les lieux de suivi et d'activité ne sont donc pas accessibles à pied. De nombreuses villes de France ont mis en place la gratuité des transports en commun pour les personnes avec handicap, voire pour tous. Par exemple, Paris, Lyon et plus près de nous, Aubagne. Marseille, deuxième ville de France, doit répondre aux besoins des plus fragiles. Pétition portée par Les Rêves du 14, association de patients et soignants des quartiers nord de Marseille. Donc voilà, toujours trouvable sur change.org. Pétition pour la gratuité des transports en commun à Marseille pour les adultes handicapés. Un article de rapport de force du 19 septembre 2023. Bon, c'est pas tout à fait récent, mais c'est pas non plus trop vieux non plus. France Travail, l'injonction à la remobilisation des personnes en situation de handicap. Un article de Maya Courtois. Le projet de loi pour le plein emploi est examiné depuis lundi 18 septembre à l'Assemblée nationale, après avoir été adopté en première lecture par le Sénat en procédure accélérée. Au-delà de ses volets les plus connus, notamment sa réforme du RSA, le projet de loi soulève des craintes en donnant la main à France Travail sur les orientations des personnes en situation de handicap et en faisant planer une injonction redoublée à se mettre au travail. La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale examine depuis lundi 18 septembre le projet de loi pour le plein emploi. Le texte en procédure accélérée a déjà été adopté en première lecture par le Sénat. L'ensemble des allocataires, chômage, RSA, contrat jeune, allocations liées au handicap, seront regroupés au sein d'un même organisme, aux compétences élargies, remplaçant Pôle emploi, France Travail. Connue notamment pour son volet RSA, la réforme amène aussi de nouvelles dispositions sur le travail des personnes en situation de handicap et attise là aussi les craintes. Cette réforme amène non à produire de l'autonomie par le travail, mais à subordonner davantage les personnes handicapées aux impératifs de production de valeurs marchandes, alertent les sociologues Pierre-Yves Baudot et Jean-Marie Pilon dans une tribune parue en juillet dans Le Monde. Pourquoi un constat si sévère ? La question du handicap dans ce projet de loi doit être replacée dans une perspective plus large, explique Pierre-Yves Baudot auprès de Rapport de Force, celle d'une transformation générale du marché de l'emploi visant à mettre en place une société dite de plein emploi sans s'accompagner d'une augmentation du coût du travail pour le patronat. La logique... fin de citation. La logique augmentée statistiquement le nombre de demandeurs d'emploi, poussé dès lors à accepter des postes mal rémunérés, avec moins de marge de négociation salariale et peu de protection sociale. Les dernières réformes de l'assurance chômage et des retraites sont passées par là. La logique pourrait se résumer en un credo « Nul n'est inemployable ». Martelait Muriel Pénicaud en 2018. Un credo depuis répété à l'envi par Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. La catégorie du handicap s'est construite sur la démarcation entre pauvres illégitimes et légitimes, entre ceux qui peuvent travailler et ceux qui ne le peuvent pas, rappelle Lily Guigueno, militante anti-validiste. Or, quand vous dites « nul n'est inemployable » en direction des personnes handicapées, cela active un levier validiste. Ce levier consiste à dire « si les personnes handicapées peuvent le faire, alors vous aussi », argumente-t-elle. Le lien se fait ici avec la réforme du RSA détaillée dans le projet de loi visant notamment à instaurer une obligation de 20 heures d'activité hebdomadaire pour continuer de percevoir son allocation. Avec cette phrase de Sophie Cluzel, un tournant se met en place, abonde Pierre-Yves Baudot. Bien sûr que les personnes concernées se battent pour accéder à l'emploi contre les discriminations et les licenciements abusifs. Le but n'est pas de dire que les personnes handicapées ne peuvent pas travailler, mais qu'elles ne soient pas forcées de le faire. Fin de citation. Et pas à n'importe quel prix, ni dans n'importe quelle condition. France Travail prend la main sur les MDPH. France Travail aura la main sur les orientations des demandeurs d'emploi en situation de handicap vers le milieu ordinaire ou protégé, prévoit le projet de loi. Jusqu'ici, seuls les MDPH, maison départementale des personnes handicapées, gérait ses orientations. Désormais, France Travail émettra ses préconisations. L'évaluation bascule des institutions administratives du champ de handicap à celle du champ de l'emploi, ces dernières priorisant les impératifs du marché du travail, décrit Pierre-Yves Baudot. Sur le même terreau idéologique, le Royaume-Uni avait mis en place dans les années 2010 une politique visant à tester plus largement la capacité des personnes en situation de handicap à se mettre au travail. Ces changements ont eu des conséquences sociales et économiques, voire vitales, assez fortes. On estime à plusieurs milliers des personnes déclarées « fit for work », aptes à travailler, qui sont mortes dans les années qui ont suivi. Souligne Pierre-Yves Baudot, 90 décès par mois entre 2011 et 2014, précisait alors une étude gouvernementale. L'un des plus grands échecs de politique sociale des temps modernes, qualifie aujourd'hui l'autrice et activiste britannique Frances Ryan. De même que les demandeurs du RSA seront automatiquement inscrits à France Travail, les MDPH informeront France Travail de toute RQTH, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, délivrée à une personne exprimant son souhait d'être accompagnée. À l'été 2022 déjà, un décret autorisait Pôle emploi à collecter des données de santé concernant des demandeurs d'emploi en situation de handicap. La boîte de Pandore était ouverte, souligne Lily Guillénaud, pour qui ces mesures relèvent du fichage sur la base du handicap. En outre, des organismes publics ou privés du réseau France Travail seront chargés du repérage des personnes les plus éloignées de l'emploi ou qui ne sont pas en contact avec les acteurs institutionnels de l'insertion sociale et professionnelle et de leur remobilisation. Le ton est donné. La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé élargie est transmise à France Travail. En parallèle de cette batterie de mesures, le public susceptible d'avoir une RQTH s'élargit. L'article 8 du projet de loi prévoit la délivrance d'une RQTH à tout jeune de 16 à 20 ans concerné par une allocation d'éducation d'un enfant handicapé, une prestation de compensation du handicap, une aide départementale ou un projet personnalisé de scolarisation. Idem pour toute personne orientée vers un ESAT, établissement ou service d'aide par le travail. La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui sera attribuée d'office. Si la RQTH, donc la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ouvre des droits non négligeables, élargir l'attribution permet surtout aux entreprises de recruter plus largement afin de respecter leurs obligations en matière d'emploi de personnes en situation de handicap. La loi exige que toute entreprise de 20 salariés ou plus engage au moins 6% de travailleurs en situation de handicap. Or, la moyenne actuelle stagne à 3,5%. Plus vous ouvrez la RQTH, plus vous pouvez augmenter vos quotas, mais tout en continuant à discriminer les handicaps lourds, explique Lily Guigano. Délivrer davantage de RQTH élargit aussi le panel de main-d'œuvre pour les ESAT et les entreprises adaptées. Actuellement, en ESAT et globalement dans le milieu protégé, le recrutement se fait souvent en direction de personnes suivies déjà dans les structures du médico-social. Là, on va élargir à des demandeurs d'emploi qui ont des situations plus larges, expose Mireille Stivala, la secrétaire générale de la Fédération CGT Santé et Action Sociale. Les titulaires d'une pension d'invalidité ou les victimes d'accidents du travail auront des droits similaires aux titulaires du RQTH et pourront eux aussi être orientés vers le milieu protégé. ESAT sous le feu des critiques. L'État ne cherche qu'à gagner du temps. Le gouvernement assure que France Travail priorisera les orientations en milieu ordinaire plutôt que vers le milieu protégé. Mais ces déclarations d'intention ne suffisent pas à balayer les inquiétudes. Pour Lily Guigano, ouvrir à de nouveaux publics le milieu protégé, dont les ESAT, est une façon pour le gouvernement de pérenniser le modèle. Or, d'un point de vue pragmatique, la capacité des ESAT à accueillir davantage se pose. Dans le secteur psychiatrique, au sein duquel elle exerce comme aide-soignante, Mireille Stivala indique indique avoir déjà du mal à trouver assez de place pour orienter tous nos patients vers le milieu protégé. S'il n'y a pas de moyens supplémentaires, comment va-t-on pouvoir absorber un public supplémentaire ? Les professionnels du médico-social s'y trouvent déjà en tension. Mais surtout, les ESAT sont décriés depuis des années par les militants antivalidistes. Leur fonctionnement a récemment été dénoncé par le menu dans le livre d'enquête « Handicap à vendre » du journaliste Thibaut Petit. Par ailleurs, la tendance actuelle dans les ESAT est à l'exigence de plus en plus forte d'un certain rendement de la production en direction des entreprises avec lesquelles les contrats sont passés, décrit Mireille Stivala de la CGT. Certes, le projet de loi prévoit des avancées, entre autres l'obtention du droit de grève, du droit de retrait ou encore d'une participation au CSE, autant de droits basiques du Code du travail, dont les travailleurs en ESAT étaient jusqu'ici privés. Rien sur le droit au minimum salarial, en revanche. Ces travailleurs n'ont qu'une rémunération garantie de 5%, de 55%, quand même, de 55% à 110% du SMIC. Rien qui ne remette en cause surtout ces institutions en tant que telles. Les ESAT doivent disparaître, ce sont des structures de travail ségrégées, martèle pourtant Lily Guiguenot. Le gouvernement est censé connaître le droit international qui l'engage. Au lieu de cela, il produit un texte de loi qui vise de simples ajustements et ne touche pas à la discrimination de fond. De fait, le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies a réitéré dans une observation parue en septembre 2022 sa demande de fermeture de ces lieux progressivement et rapidement. Face à cet horizon de désinstitutionnalisation prôné par le comité, l'État ne cherche qu'à gagner du temps avec une stratégie réformiste visant à saupoudrer les droits des droits, droits de grève, de retrait, mais toujours pas droit au salaire minimum. Est-ce que les gens se rendent bien compte ? On est en 2023, épingle la militante anti-validiste. Logement, transport, l'accessibilité oubliée. Le Comité des droits des personnes handicapées conclut que l'emploi ségrégué, dont les ateliers protégés sont un exemple, ne doit pas être considéré comme un moyen d'assurer progressivement aux personnes handicapées le plein exercice du droit au travail. Seul un emploi librement choisi ou accepté, exercé sur un marché du travail ouvert et inclusif, vient attester la réalisation de ce droit. Ouvert et inclusif, le marché du travail en milieu ordinaire est loin de l'être encore. Mais dans le texte de loi en l'état, nulle trace de réflexion globale sur les multiples freins à l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Difficulté à se loger dignement, inaccessibilité des transports publics, retard d'adaptation du milieu ordinaire. Il n'y a rien dans ce projet de loi qui soit relatif à l'accessibilité ou à l'aménagement des postes de travail, rien non plus sur les obligations des employeurs, rien enfin sur l'accessibilité des zones d'activité, regrettent les sociologues Pierre-Yves Baudot et Jean-Marie Pilon dans leur tribune. Fin de cet article, où l'on voit qu'il y a là encore une création peut-être d'une sous-classe à travers le travail des personnes avec moins de droits, payées moins cher, et voilà, donc qui rejoindront les rangs de la précarité. Et toujours cette considération du handicap. Donc ces personnes handicapées qui sont dites handicapées d'une manière. Enfin, à ce mot se rattache quand même un certain mépris, une certaine condescendance, voire peut-être même. Une certaine charité, peut-être un charity business. Alors, c'était... normalement, il devait y avoir un morceau de musique qui passait. Mais voilà, la machine ne fonctionne pas. Alors, je vous propose un autre morceau. Donc, on va écouter NRBC. NRBC compte pas. Alors, je ne sais pas si c'est encore le bon morceau.
T'accroches à ton petit pouvoir comme Gollum à son précieux. T'as plein les ordres, les comptes à rendre. Bah ouais, cocotte, t'es sous pression. Y'a les crédits sur le dos, les troupes en dans le bas de l'aile. En plus, t'as mal à ta France. Ouais, je poulet, tu bats de l'aile. Si j'esquivais pas le taf, tu serais payé à me faire galérer. Vu qu'on se doit rien, je vais pas te mentir. Tes petits problèmes, je m'en bats les reins. Pendant que les autres là-haut se gavent, toi tu patrouilles dans l'entrepôt. Je te verrai bien dans une cave en train de régler ça entre pauvres. Tu balises, c'est la crise, tu tournes vache au sabbat de soi. Enfant de pédin, pétochard, on nous fait la même à chaque fois. Je te vois bien nu en gilet jaune à contresens sur la 4 voies. Là on la verrait l'élégance de la pâle au pas de loi. Où c'est que ta gare et ton 4x4? J'ai peut-être pas un copec mais j'ai des pierres et un fat cap. Si tu te demandes, il vient d'où ce mec? Cherche 20 milieux sous le smic. Je suis le prion dans ton bout de steak. Je suis né à Beaupal, dans la banlieue de Toulouse, à deux pas de Shumai's Island. Je suis l'accident industriel, la catastrophe couleur locale. Le tsunami à la peau, ton AVC en Thaïlande. Tu fais le malin sous tes petits airs et tout en jurant tes grands dieux. Tu fais ta marche sur le désastre. Espèce de petit chef, carpeau, gros porc, profiteur de misère. Compte pas sur moi pour enflouer des caisses. Pour calmer tes angoisses ou pour mentir à tes gosses. Compte sur moi pour mettre un visage sur le maillot de la chaîne. Le matricule, l'agent, la machine vue du bas de l'échelle. Compte pas sur moi pour enflouer des caisses. Pour calmer tes angoisses ou pour mentir à tes gosses. Compte sur moi pour mettre un visage sur le maillot de la chaîne. Le matricule, l'agent, la machine vue du bas de l'échelle.
Pour ton argent, je me crèverai pas la plaie, je me saignerai pas à blanc. Alors cette lettre de motive, c'est quelques mots, c'est pour ton grade. L'économie, c'est la guerre, on n'est pas dans le même camp. Hein. Compte pas sur moi pour te payer tes vacances, faire gonfler tes stats, perdre mes heures à la chaîne. Je préfère bouffer dans les poubelles qu'à ton râtelier. Me cherche pas dans l'atelier, avec plaisir je manque à la peine. Non, je reste pas à ton entière disposition. Je ne suis pas en attente d'une réponse favorable. Donc je te prie d'agréer, tête de con, l'expression de mes sentiments les plus crades. Et toi le sbire, quand tu croises ton boss, tu baisses la tête, la sueur te coule sur la tempe. Là, c'est toi qui flippes. Tu fais moi le beau quand tu rampes. Dis-moi, tu vois quoi dans tes cauchemars? Un crack boursier ou un corps pendu à ta crise? Me réponds pas, en fait, je me fous de ce que t'as dans le crâne. Je souhaite la plus sauvage des grèves à ta petite entreprise.
Compte pas sur moi pour enflouer des caisses. Pour calmer tes angoisses ou pour mentir à tes gosses. Compte sur moi pour mettre un visage sur le maillot de la chaîne. Le matricule, l'agent, la machine vue du bas de l'échelle. Compte pas sur moi pour enflouer des caisses. Pour calmer tes angoisses ou pour mentir à tes gosses. Compte sur moi pour mettre un visage sur le maillot de la chaîne. Le matricule, l'agent, la machine vue du bas de l'échelle.
Radio Libertaire 89,4. Et oui, vous pouvez soutenir cette radio d'ailleurs en allant sur le site radio-libertaire.org et remplir le bouton de souscription pour, par exemple, renouveler le matos donc, en tout cas, nous soutenir et soutenir les combats et les luttes. Donc autour de enfin menée par les amis et les camarades de la Fédération anarchiste. C'est toujours l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie, et on va donc faire le petit dossier sur la Sarthe, la psychiatrie publique, une espèce d'effondrement, c'est-à-dire que à travers l'exemple de la situation d'un EPS dans la Sarthe, de l'établissement public de santé mentale de la Sarthe, contraint de fermer de nombreux lits, des commentaires se font sur la situation de la psychiatrie en général. Alors, dans la Sarthe, la psychiatrie publique désertée par les médecins s'effondre. C'est un article de Mediapart du 4 août 2023. Dans la Sarthe, la psychiatrie publique désertée par les médecins s'effondre. Faute de médecins, l'établissement public de santé mentale de la Sarthe est contraint de fermer de nombreux lits. Seuls les malades les plus graves sont hospitalisés, parfois au mépris de leurs droits. Les autres se dégradent faute de soins. Parmi des soignants désemparés, les arrêts maladie se multiplient. Aux urgences du Mans, il existe depuis une année environ un patio dédié aux patients psychiatriques. C'est une hyperbole, ce patio est en réalité un morceau de couloir qui donne sur une baie vitrée sans aucune intimité. Les patients sont sur des brancards, parfois sur de simples fauteuils, séparés par des paravents. Il y a des toilettes, mais pas de salle de bain, ce n'est pas du tout décent. Ils y restent dans l'attente d'un lit d'hospitalisation pendant des jours. Un patient y est resté 2 semaines. Ça, c'est les urgences dédiées aux patients psychiatriques. Donc ça, c'est ce que raconte la docteure Gabrielle Munier, chef de pôle de psychiatre d'urgence de l'établissement public de santé mentale EPSM du Mans. Un autre psychiatre posté aux urgences du Mans, Antoine Decouvalère, décrit une dégradation des soins importante pour ces patients en attente. Ils sont agités, on ne parvient pas à les réévaluer. Il y a beaucoup de patients avec des idées suicidaires, des patients psychotiques qui décompensent. On n'a parfois pas d'autre solution que d'avoir recours à des contentions physiques ou médicamenteuses. Des hospitalisations sous contrainte sont décidées sans qu'on puisse établir les certificats qui encadrent légalement cette mesure. Le juge des libertés et de la détention est au courant. On se retrouve à faire des choses hors la loi, confirme sa chef de pôle. Ces malades en attente aux urgences attendent un lit d'hospitalisation. Or, l'EPSM de la Sarthe, le seul hôpital psychiatrique public du département, a été contraint de fermer cet été 3 unités d'hospitalisation, soit 42 lits. Ce choix a été fait collectivement par la direction administrative et médicale pour au moins assurer la sécurité des 5 unités encore ouvertes, celles où est encore assurée une présence médicale, explique le directeur général adjoint Samuel Rez-Virfollet. Et ce n'est pas une fermeture estivale, nous n'aurons pas les moyens de rouvrir ces unités à la rentrée. Ces médecins, mais aussi la direction de l'établissement, ne cachent rien de la situation. Ils alertent leur tutelle depuis des mois, ont publié des tribunes dans la presse, dont le club de Mediapart, écrit le journaliste de Mediapart. Notre établissement n'est plus à ce jour en mesure d'assurer correctement ses missions auprès des patients en besoin de soins psychiques, écrivent-ils. La situation est extrêmement grave, elle va continuer de s'aggraver davantage. On a formalisé notre alerte, poursuit la docteure Munier, en expliquant aussi qu'on mettait en jeu notre propre santé. Pour ma part, j'ai l'impression de tourner en boucle sans trouver de solution. Je me retrouve en pleurs au travail. J'estime que je ne suis pas en mesure d'assurer mes fonctions. Je mets en danger mes patients. Elle a finalement dû s'arrêter en situation d'épuisement professionnel. La Sarthe a un problème structurel qui paraît aujourd'hui indépassable. En 2023, il n'y a que 9 psychiatres pour 100 000 habitants dans le département, contre 15 en moyenne en France métropolitaine, selon les chiffres de l'Ordre des médecins. Dans la région, seuls le Maine-et-Loire et la Loire-Atlantique sont mieux dotés, avec 20 psychiatres pour 100 000 habitants, ce qui reste peu au vu de la pénurie générale dans cette spécialité médicale dont se détournent les jeunes médecins. Les inégalités territoriales sont cruelles. À Paris, à 1 heure de TGV du Mans, il y a près de 70 médecins psychiatres pour 100 000 habitants. Tant qu'on ne régulera pas régulera pas l'installation des médecins, soupire la pédopsychiatre Marianne Piron-Prunier, présidente de la commission médicale, d'établissement de l'EPSM. Dans la Sarthe, les besoins en soins psychiatriques sont pourtant très importants. On a un des plus hauts taux de suicide en France, d'importants problèmes d'alcoolisme, détaille Marianne Piron-Prunier. Depuis le Covid, on voit la santé mentale des 15-30 ans se dégrader. Notre établissement, qui est la seule réponse publique de tout le département, n'a plus que 25 postes de médecins contre près de 50 il y a 20 ans pour 20 000 patients suivis, dont 5 000 enfants. Un médecin suit donc en moyenne 800 patients et patientes. Le PSM de la Sarthe est lui aussi le seul habilité à prendre en charge les hospitalisations sous contrainte à la demande d'un tiers ou d'un représentant de l'État, c'est-à-dire les malades les plus graves pour eux-mêmes et pour les autres. En dehors de l'hôpital public, seuls 22 psychiatres libéraux exercent dans le département, en cabinet ou dans une clinique qui n'accueille que les patients les moins graves. Dans un cercle vicieux, les conditions de prise en charge se dégradent. On fait de la psychiatrie de guerre. On trie tout le temps pour se concentrer sur les cas les plus graves. Les patients les plus légers ne sont plus vus, et s'aggrave, se désole la docteure Piron-Prunier. Les centres médico-psychologiques qui prennent en charge les patients non hospitalisés sont débordés. Il y a des mois d'attente avant de voir un médecin. Cet été, un seul médecin supervise les 7 CMP du département. Les équipes paramédicales sont en autonomie, on fait des ordonnances par téléphone, c'est n'importe quoi, souffle la pédopsychiatre Violaine Pio-Gloria. Sous la précédente direction, un départ de médecin, c'était une économie. Citation de la docteure Violaine Pio-Gloria. La situation est d'autant plus désolante que les soignants ont le sentiment que l'établissement est dans une dynamique positive. On a une nouvelle direction médicale et administrative motivée. On a écrit un projet de soins qui porte une vision innovante de la psychiatrie, assure la docteure Gabrielle Munier. Le directeur général adjoint de l'établissement, Samuel Rezvier-Follet, le détaille entre deux réunions de crise avec l'Agence régionale de santé. On sait que le manque de médecins est structurel et que notre situation n'est pas attractive. Alors, on essaie de dégager du temps médical en déléguant un maximum de tâches sur les paramédicaux. On fait monter en compétences nos paramédicaux. On a déjà 3 infirmières de pratique avancée on en recrute 2 autres. On a développé des équipes mobiles qui interviennent auprès des malades à leur domicile. Un infirmier travaille auprès du SAMU. Une plateforme téléphonique répond aux médecins de ville, aux familles, aux usagers. Pour de nombreux médecins, l'établissement paye une gestion désastreuse dans les années 2010. À l'époque, la direction cherchait à tout prix à faire des économies, raconte la pédopsychiatre Violaine Pio-Gloria. Un départ de médecin, c'était une économie. Il n'était pas remplacé alors qu'on s'était déjà sous-doté. Cela a conduit l'établissement à sa perte. Aujourd'hui, on n'a plus aucune ressource. Tout départ de médecin implique de renoncer à des activités pour protéger les soignants et les patients. On en appelle aujourd'hui à la solidarité régionale. Mais l'Agence régionale de santé a mis du temps à nous prendre au sérieux. Sollicité, l'ARS n'a pas répondu à nos questions. Une cellule de régulation tente de transférer des patients et patientes envoyés vers les hôpitaux psychiatriques de Nantes ou d'Angers. Mais cette politique a ses limites. Les capacités d'accueil des autres établissements et l'état de santé des malades. Le directeur général adjoint ne le cache pas, leur état est de plus en plus grave, ils sont difficiles à transférer. Fin de la citation, fin de l'article de Mediapart sur la psychiatrie publique dans la Sarthe. Alors, effectivement, on a une situation où il y a de moins en moins de services et où sont accueillis, entre guillemets, de plus en plus de, entre guillemets, malades. Donc ça ne peut que créer une situation de débordement, enfin de comme un oui, comme une rivière en crue, quoi. C'est-à-dire que l'institution ne peut répondre efficacement et correctement avec le respect des personnes et des droits des personnes à cette à cette arrivée en masse de personnes de dites malades, en fait, de personnes disons que cette maladie de ces personnes qui est aussi l'effet de situations sociales de plus en plus dures donc ces situations sociales qui font que des gens deviennent très stressés et se retrouvent fragilisés mentalement, hein, on va dire en besoin de soins psychiques, n'est que peu pris en considération par les pouvoirs publics. Et voilà. Bon. Eh bien, un commentaire de cette situation, de cet article. D'abord, il y a les psychiatres qui font une espèce de manifeste, en fait. Alors, la psychiatrie sartoise en danger, la dégradation dramatique de l'offre de soins. La psychiatrie sartoise en grand danger, les psychiatres dénoncent la dégradation dramatique de l'offre de soins dans cette tribune. Voilà, c'est une tribune rédigée par les médecins de l'établissement psychiatrique du Mans, couvrant tout le territoire de la Sarthe. Ceux-ci alertent sur la situation catastrophique de l'offre de soins avec un risque majeur de crise sanitaire imminente. Nous, médecins psychiatres, médecins généralistes et pharmaciens de l'EPSM de la Sarthe, souhaitons alerter nos concitoyens et concitoyennes sur la situation dramatique de la psychiatrie en Sarthe. Du fait de la pénurie médicale s'aggravant depuis plusieurs années sur notre département et plus particulièrement concernant notre discipline, les soins psychiatriques publics de notre département sont soumis à une dégradation constante. Pour tenter de limiter les conséquences pour les Sartoises et les Sartois, l'établissement, sous l'impulsion de la direction et des représentants et des représentantes des médecins, met en place des dispositifs innovants et cherche à développer tout ce qui pourrait être utile pour améliorer l'accès et la qualité des soins. Compte tenu de la situation de crise globale de toutes les filières de soins, cela est fait dans des temps records et sans temps médical supplémentaire. La pénurie médicale est aujourd'hui à un niveau extrême, mettant en péril l'ensemble de nos dispositifs de soins, tant hospitaliers qu'ambulatoires, consultations, hôpital de jour, soins de réhabilitation psychosociale. Notre établissement n'est plus à ce jour en mesure d'assurer correctement ses missions auprès des patients en besoin de soins psychiques. Enfants, adolescents, adultes, personnes âgées, aucune filière n'est épargnée par la forte réduction des moyens humains. L'établissement a ainsi été contraint de fermer 3 unités d'hospitalisation en ce début d'été, ce qui correspond à 42 lits fermés, avec pour conséquence immédiate une restriction majeure d'accès aux soins hospitaliers qui actuellement sont exclusivement réservés aux patients hospitalisés sous contrainte, c'est-à-dire sans leur consentement. Concrètement, si vous avez une dépression sévère résistante au traitement antidépresseur en Sarthe en 2023 avec nécessité d'hospitalisation, ce n'est pas possible à l'EPSM de la Sarthe. L'accès aux consultations médicales, mais aussi infirmières et psychologie en centre médico-psychologique est de plus en plus restreint et les lignes d'attente s'allongent. En psychiatrie adulte, il faut attendre plusieurs mois pour une consultation médicale et parfois jusqu'à 2 années pour voir un ou une psychologue. Quant à l'accueil infirmier souhaitable dans les 24-48 heures, il faut dans certains centres médico-psychologiques patienter souvent jusqu'à plusieurs semaines. Nos confrères et consœurs de la médecine générale, en première ligne dans leur cabinet, prennent en charge seuls les situations complexes qui nécessitent les soins spécialisés. Les délais d'attente sont devenus tellement importants que les patients arrivent dans nos centres de consultation dans un état de santé psychique très dégradé, puisque pris en charge avec grand retard. La situation est extrêmement grave. Elle va continuer de s'aggraver davantage. Dans tous les hôpitaux généraux dotés de services d'urgence, des patients nécessitant des soins psychiatriques peuvent être conduits à patienter quelques heures, voire quelques jours en attente d'un lit en psychiatrie. Au Mans, il y a encore 3 ans, l'exception était qu'un ou une patiente reste 2 jours aux urgences en attendant un lit d'hospitalisation. Aujourd'hui, ce sont 10 de patients et patientes qui attendent leur place, pour certains pendant plus d'une semaine, dans des conditions indignes. L'hôpital du Mans n'a pas eu le choix depuis plusieurs mois de voir se créer une zone dite tampon. Elle est nommée patio. Les patients et patientes restent en attente d'hospitalisation à l'EPSM et sont hébergés le temps qu'une place se libère. Vous imaginez-vous en détresse psychologique intense avec l'idée insupportable de n'avoir plus d'autre choix que de mourir placé dans une salle commune avec 7 lits séparés par de minces paravents à attendre en désespoir une prise en charge hospitalière adaptée? Ce lieu nous a tous révoltés à son ouverture il y a 1 an. Aujourd'hui, tout le monde s'en accommode, faute de moyens, et la banalisation de ce traitement nous alarme. Je fais une première parenthèse, l'idée insupportable de ce patio où il y a des gens qui sont un peu entassés comme ça et qui doivent dormir sur place avec des lits séparés par de minces paravents. Donc indigne, ces psychiatres dans leur tribune. Mais en revanche, ils n'ont pas l'air d'être indignés par le fait que des personnes soient pendant des heures, voire des jours, dans des chambres d'isolement ou soient contenues sur des lits pendant aussi plusieurs heures, voire des journées entières. Une empathie à 2 vitesses. Voilà, je referme ma parenthèse. Cette situation d'entre-deux, entre les urgences et les soins psychiatriques hospitaliers, est intolérable sur le plan éthique et déontologique. À la demande des urgentistes du centre hospitalier du Mans, l'agence régionale de santé s'est emparée de cette question pour tenter d'y remédier. Des propositions ont été travaillées avec les établissements de la région Pays de la Loire sans succès jusqu'à présent. En parallèle, la fermeture des lits a fait augmenter le nombre de patients et patientes qui restent sans solution à attendre une place en hospitalisation dans des conditions dangereuses chez eux ou dans d'autres services de soins qui sont inadaptés. Les personnes les plus dangereuses pour elles-mêmes ou pour les autres sont encore dans le service des urgences, parfois attachées pendant plusieurs jours. Celles qui s'opposent à une décision d'hospitalisation devenue nécessaire sont privées de leur liberté de manière totalement illégale. Aucune solution viable n'a été trouvée pour prendre en charge ces personnes. Laisser perdurer cette situation sans alerter la population serait franchir une limite inacceptable, celle de la déshumanisation des soins psychiques pour les patients sartois et sartoises. Se laisser imposer un tel niveau de dégradation de l'accueil des personnes en souffrance serait accepter un niveau de maltraitance institutionnelle inenvisageable. Ne rien dire, c'est consentir, disait une de nos consoeurs urgentistes en 2021. Ne rien dire, c'est consentir, reprenait il y a quelques semaines l'un de nos confrères urgentistes au Mans. Ne rien dire, ce serait accepter d'invisibiliser la carence gravissime de l'offre de soins psychiques en Sarthe. Ne rien dire, ce serait plier devant les conditions indignes d'exercer la médecine. Ne rien dire, ce serait bafouer nos valeurs, notre éthique, notre engagement auprès des patients. Collectivement, les médecins et pharmaciens de l'EPSM de la Sarthe alertent sur le défaut de soins et d'inégalité d'accès aux soins qui s'amplifie partout en France et notamment en Sarthe. Nous demandons de toute urgence de l'aide auprès de l'Agence régionale de santé, du ministère de la Santé et du gouvernement et réclamons des solutions pérennes. Voilà la liste des signataires. Non, je vais pas la lire. Ce sont la plupart des médecins psychiatres, des psychiatres. Il y a quelques médecins généralistes et des médecins addictologues. Chef de pôle, pharmacien, pharmacienne, et voilà, gérontopsychiatre, voilà. Ce sont donc une certaine corporation qui défend son beefsteak, on va dire aussi. Alors, mais qui révèle comment, effectivement, le service public de la psychiatrie ben, va à volo et se dégrade peut-être en faveur de la psychiatrie, du développement d'une psychiatrie privée. Et, ça reste une question. Alors, juste un commentaire du CRPA par rapport à cette situation dans la Sarthe. Le CRPA, le Cercle de Proposition d'Action sur la Psychiatrie. Dans la Sarthe, la psychiatrie publique désertée par les médecins s'effondre. Commentaire. Le commentaire de André Bitton du CRPA. On en appelle aujourd'hui à la solidarité régionale, mais l'Agence régionale de santé a mis du temps à nous prendre au sérieux, dit Violaine Pio-Gloria. Les problèmes de la psychiatrie et cette discipline ne sont pas sérieux, sauf en cas de faits divers sanglants relayés par les médias liés à des politiques en mal d'hystérisation sécuritaire. Par ailleurs, les soignants interviewés disent clairement qu'ils sont hors la loi dans leur pratique même. Il est vrai que dès lors où il s'agit de malades mentaux ou personnes recrutées comme telles et parquées souvent à vie dans cette filière d'exclusion médicalisée, le droit, on sait ce qu'on en fait dans ces institutions. À noter que les recrutements de pères aidants professionnalisés et de médiateurs de santé pairs, des patients ou anciens patients recrutés sur la base d'une formation par un diplôme universitaire spécifique, battent son plein. Main d'œuvre à moindre coût, pouvant être réhospitalisé sans plus de garantie. C'est tout de même très douteux. Nous en appelons à la nécessité d'initier et développer des réseaux alternatifs de prise en charge et de solidarité. Voilà, et bien donc, ici l'entonnoir, nous partageons cet appel la nécessité d'initier et développer des réseaux alternatifs de prise en charge et de solidarité. Nous ajoutons que, un peu échapper et s'éloigner de cette institution psychiatrique qui est bien plus pathogène que thérapeutique.
Je chante gratoche pour la misère, pour tous les défavorisés. C'est ma promo, un peu très cher. Ouais, y'a que le fric qui me fait bander. Je télétonne sur la fréquence, et c'est bingo dans le tiroir caisse. Un coup de cancer, un coup de Miss France. T'as vu ma gueule, t'as vu mes fesses. Avec la chanteuse canadienne qui a les neurones à râle bonbon. C'est une star académicienne avec sa chanson Trou du con. Un rescapé de la canicule chez un Michel Druckerisé. Un coup j'avance, deux tu recules chez le Faugiel, le petit roquet. Face terminus, c'est un record pour l'audimat. Question cervelle, c'est dont l'anus avec la belle Evelyne Tomate. À votre bon cœur, monsieur, dame, c'est pour le cancer. À votre bon cœur. Je télévisionne chez les zombies. La tournée des enfoirés. Amène ta thune, toi le maudit. C'est pour sauver l'humanité. Qui veut voir le paraplégique, celui que l'on montre à la foire. Allume ton tube cathodique. C'est sur la une, c'est le grand soir. Entre Sarko et femme Chirac, concours de pièces, rien que des jaunes. Ça sent un peu la grosse arnaque, mais le douillet a l'air d'un clone.
l'ancien c'est le Renault, l'ancien nanar, le v'là qui fait son numéro. C'est racol dur pour le renard, pour les losers, pour les cocos. Je chante gratoche pour la misère, pour tous les défavorisés. C'est ma promo à pas très cher, moi y'a que le fric qui me fait bander. Je chante gratoche pour la misère, pour tous les défavorisés. C'est ma promo à pas très cher, moi y'a que le fric qui me fait bander. À votre bon cœur, monsieur, dame, c'est pour le cancer. À votre bon cœur, monsieur, dame.
Voilà, c'était Prince Ringard Charity Business. Et voilà, et ainsi se termine l'entonnoir pour aujourd'hui. Nous vous disons à la semaine prochaine. Et voilà, on finit avec Ritier.
Peut-être. Que cette putain de chaîne de vie est pleine d'ennui, pleine de soucis, de
salut à tous, toutes.
Il y a les rats et les souris, la saloperie, où tout ça se bouscule sous mon ciel gris. Mais dans cette putain de chaîne de vie, il y a aussi des éclaircies. Heureusement, il y a quelques amis. Ouais, surtout, il y a la vie, avec Lula qui me sourit. Ma Lula qui est ma chérie, ma Lula où elle me dit: allez, roule papa, ne t'en fais pas. Ouais, roule papa, vas-y. Oublie ce qu'il y a derrière et puis souris. Allez, roule papa, ne t'en fais pas. Ouais, roule papa, vas-y. Moi, je t'aime à la folie. Quoi qu'il en soit, il y a la vie. Elle est comme ça, ouais, c'est ainsi. Alors bien loin du paradis, je m'égare et me voici. En pièces détachées ou en débris, filant fidèle à ce qui est écrit. Mais y'a Lula qui me sourit. Ma Lula quand elle me dit: allez roule papa, ne t'en fais pas. Ouais roule papa, vas-y. Oublie ce qu'il y a derrière et puis poursuis. Allez roule papa, ne t'en fais pas. Ouais roule papa, vas-y. Moi je t'aime avec ta folie. Cette chaîne de vie a des mystères et Dieu merci. Pour ce moineau tombé du nid, pour se retrouver dans ma vie et se réchauffer dans mon lit. Bien que je joue d'être le bon abri, mais y'a Lula qui me sourit. Ma Lula, oui, elle me dit: allez, roule papa, ne t'en fais pas. Ouais, roule papa, vas-y. Oublie ce qu'il y a derrière et puis souris. Allez, roule papa, ne t'en fais pas. Ouais, roule papa, vas-y. Les beaux jours seront les mercredis. Allez, roule papa, ne t'en fais pas. Ouais, roule papa, vas-y. Oublie ce qu'il y a derrière et puis souris. Oh, allez, roule papa, ne t'en fais pas. Ouais, roule papa, vas-y. Moi, je t'aime, ouais, c'est ainsi.
Allez, roule papa, ne t'en fais pas. Allez, roule papa, vas-y, vas-y.
We'll be right back. rayon de soleil.
Le libertaire debout, le soleil à son zénith. Une émission de Radio Libertaire Méditerranée.
Bonjour à tous, bienvenue dans Rayon de Soleil, l'émission du sud de la France sur Radio Libertaire, 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité. Pour nous retrouver, vous pouvez aussi contacter le streaming, écouter par le streaming plutôt, sur www.radio-libertaire.org et vous retrouverez le podcast de toutes les émissions dessus. Voilà. Voilà pour le site de Radio Libertaire. Le site d'un rayon de soleil, c'est rl.mediterranee.free.fr et vous pouvez nous contacter par mail à rl.mediterranee.free.fr. Aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale d'un rayon de soleil, puisque c'est le libertaire debout, le soleil à son zénith. Comme d'habitude, on va rentrer à fond sur une thématique. Et on va essayer de vous expliquer un peu cette